Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Au fil des pages, avec un sujet qui, bien sûr, retiendra l'attention de tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter à Canal Academy, il s'agit de la désinformation par les mots. Aux éditions du Rocher, c'est Maurice Pernier qui a écrit cet ouvrage. Maurice Pernier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de linguistique générale à l'Université Paris 12, sémiologue, alors linguiste, bien sûr. Sémiologue, on peut rappeler la définition ?
Oh, c'est l'étude de tous les signes et signaux, y compris le langage d'ailleurs, mais enfin ça déborde largement.
Donc la désinformation par les mots, c'est une sorte de dictionnaire dans lequel vous avez inventorié tous les mots un peu à double sens, euphémisme, qui polluent notre univers. Alors j'allais dire qui polluent, oui, parce que parfois ils peuvent représenter des écrans de fumée à la compréhension d'une réalité. La désinformation par les mots.
Voire des gaz toxiques.
Voire des gaz toxiques. La désinformation par les mots aux éditions du Rocher, c'était dans la collection de feu Vladimir Volkov.
C'est exact. Vladimir Volkov, qui a disparu il y a à peu près un peu plus d'un an, était l'introducteur en France de la notion de désinformation, non pas l'inventeur, mais l'introducteur en France, qui a écrit lui-même un certain nombre d'ouvrages sur la désinformation. En particulier « La désinformation, arme de guerre », où il avait consacré une partie importante aux doctrines de Sun Tzu, n'est-ce pas, qui était le premier théoricien de la guerre psychologique, peut-on dire. Vladimir Volkov avait donc fondé cette collection il y a quelques années, dans laquelle il y a un certain nombre de titres, moins que Vladimir ne l'aurait souhaité, et où j'en ai d'ailleurs publié un deuxième, comme vous savez, au mois d'octobre dernier.
Concernant la guerre dans les Balkans.
Ah non,
non,
ça c'était un livre publié à l'âge d'homme, qui s'intitule « Mots en guerre », mais c'est le même esprit bien sûr, et qui portait intégralement sur la désinformation par les mots, dans la crise balkanique qui a vu l'éclatement de la Yougoslavie. En revanche, c'est beaucoup plus étrange, dans la collection Désinformation au Rocher, j'ai publié un ouvrage que vous connaissez d'ailleurs, même si vous l'avez oublié, qui porte sur la résurrection
Jésus de Nazareth, bien sûr.
Voilà.
Mais ça nous sort un peu de notre sujet en tant que tel, mais ce sont vos deux passions ?
Oh, j'ai beaucoup de passions.
Il y a la passion religieuse et
passion des mots, passion de l'art et de la littérature, puisque je ne suis pas cantonné dans mes écrits à la désinformation. J'ai publié d'autres ouvrages qui portent d'abord sur la théorie du langage, de manière assez générale, et également sur des études de peintres, d'écrivains, etc. Donc c'est une branche, un aspect de mon travail.
Alors Maurice Pernier, je précise que vous êtes membre de la commission générale de terminologie et de néologie. Donc c'est une commission, on a eu l'occasion déjà d'en parler ici à plusieurs reprises, en particulier avec l'un de vos confrères au sein de cette commission, Alexandre Grandazzi. Donc c'est la commission qui examine tous les mots nouveaux, trouver le bon mot français. La désinformation, c'est un sujet éminemment délicat, puisqu'il y a une dimension stratégique, il y a une dimension politique. Comment ça s'est passé, ne serait-ce que sur la façon de concevoir un tel ouvrage? C'est Vladimir Volkov qui vous avait appelé, qui vous avait dit « Maurice Pernier, écris-moi quelque chose là-dessus », ou bien c'est vous qui avez fait la démarche en disant « bah tiens, voilà, là, il y aurait quelque chose à faire ».
Oui, Vladimir Volkov, qui connaissait certains de mes articles et le livre que nous évoquions il y a un moment, m'a dit « ce serait intéressant pour ma collection de faire un ouvrage qui prendrait la forme d'un dictionnaire de la désinformation par les mots ». C'est donc ce qui a été fait. J'ai rassemblé un certain nombre de termes que j'avais relevés au fil des années.
C'est-à-dire que vous écriviez sur un papier chaque fois que vous écoutiez la radio ou regardiez la télévision, bah tiens, voilà, tel terme.
Oui, ça s'est produit, effectivement. La plupart du temps, en fait, je les gardais plutôt dans la tête et j'avais un petit sursaut à chaque fois que je les entendais. Donc, quand je me suis mis à écrire ce livre, je n'ai eu en fait qu'à fouiller dans ma mémoire et à rassembler un certain nombre de réflexions que j'avais déjà faites.
Combien de mots ici ?
Je l'ignore.
Il y en a beaucoup, hein ?
Ça n'a pas été précisé dans l'index. Je ne les ai jamais comptés pour.
Je dirais peut-être
être
à peu près 200.
À peu près.
200 mots qui vont. Alors, le premier, si on doit être concret, justement, pour illustrer votre ouvrage, le premier commence, sans doute évidemment, avec la lettre A, avec américanisme.
Le premier, c'est agression.
Agression. Voilà, le premier, c'est agression. Et alors, ça se finit avec la lettre. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour Z ou W ?
Non,
ça se termine avec vrai-faux.
J'ai regroupé W, X, Y, Z en. incluant un
certain vrai faux, c'est pour la lettre V et X,
voilà.
Mais c'est le dernier mot qui est un peu saillant.
Le dernier, et ça tombe très bien, n'est-ce pas, la lettre V soit presque au bout de l'alphabet, puisque le vrai faux est une des caractéristiques, justement, de cette désinformation par les mots.
Double
langage.
Pas
seulement par les mots. Le double langage, la réalité construite.
Au vrai faux passeport.
Voilà, très exactement. Et bien sûr, il n'y a pas qu'au niveau des mots, mais aussi au niveau des images, puisque de plus en plus, l'instrument télévision, notamment, amène les gens de communication à construire le réel qu'ils montrent plutôt que d'aller le filmer directement.
Ce qui demande de la part des linguistes une vigilance accrue.
Oui, et même des observateurs de médias et des journalistes eux-mêmes, n'est-ce pas, okay.
Qui devraient être les principaux lecteurs de ce type de dictionnaire.
Sans doute, mais pas seulement.
Alors Maurice Pernier, j'aimerais que vous nous donniez votre définition de la désinformation, parce que c'est un mot qui vient du russe, qui a bien sûr une connotation qui est très attachée à la personne de Vladimir Volkov, c'est vrai, hein. Est-ce qu'il y a une définition qui convient à ce dictionnaire ?
Écoutez, la désinformation, bien entendu, fait partie d'un ensemble plus vaste de phénomènes de communication qui inclut, par exemple, la propagande, la publicité, les langages de séduction. Bon, ça n'en est qu'une partie, bien qu'il y ait des affinités considérables entre, par exemple, la désinformation et la propagande. La caractéristique de la désinformation, c'est, disons, de n'être pas immédiatement détectable par rapport à la propagande qui, souvent, se présente sous une forme d'abord autoritaire. Il y a eu beaucoup de régimes autoritaires qui ont utilisé ouvertement la propagande, par voie d'affiches, par voie de slogans, etc. La publicité peut être considérée comme une désinformation commerciale. Néanmoins, elle aussi, elle a des caractères extérieurs qui permettent de la détecter au premier regard ou en tendant l'oreille, sauf, bien sûr, je sais qu'il existe des publicités clandestines, elles existent beaucoup, mais enfin, disons.
C'est marginal.
La pratique publicitaire, voilà, est ouverte, détectable. La désinformation se caractérise, au contraire, par son caractère clandestin et par le fait qu'elle se fait passer pour de l'information. Elle suppose une source qui, sciemment, volontairement, propage des informations qui lui conviennent pour obtenir certains objectifs. Alors la désinformation est aussi vieille que le monde, bien sûr. On peut en prendre pour premier exemple répertorié dans la littérature le cas du cheval de Troie. C'était une façon de gagner la guerre sans vraiment la livrer, selon les préceptes d'ailleurs de Sun Tzu que j'évoquais tout à l'heure à propos de Volkov. Donc, le cheval de Troie illustre bien la technique de la désinformation. On fait passer pour un cadeau et pour un hommage aux dieux un instrument de guerre qui va, évidemment, semer la défaite, le désastre dans le camp ennemi. Alors, la désinformation, schématiquement, c'est cela, n'est-ce pas ? C'est une information ciblée, fausse, destinée à servir d'arme pour obtenir un certain résultat.
Mais alors, le caractère faux de la désinformation n'est-il pas simplement subjectif ? Est-ce qu'il y a une possibilité réelle de dire si c'est faux ou si c'est vrai,
oui,
ou bien
oui.
si c'est simplement un
oui.
mot utilisé parce qu'on a une autre conception de la réalité que l'on
oui,
veut décrire ?
C'est vrai. Mais je souligne bien, ce n'est pas simplement faux. Nous tenons tous à longueur de journée des discours faux, sans le savoir, parce qu'ils sont orientés. C'est volontairement faux. Ça suppose que la fausseté en soit connue de l'émetteur, mais que l'émetteur le diffuse parce qu'il est faux, et non pas bien qu'il soit faux.
Donc la nuance entre parce que et bien que.
Voilà.
Donc il a
voilà.
conscience de la vérité, mais il sait qu'il diffuse un mensonge volontairement.
Voilà, volontairement.
Donc ça réduit quand même, on a du mal à imaginer aujourd'hui que cette désinformation soit omniprésente. Si ?
Vous peut-être, quoique en tant que journaliste, je suppose que vous
avez-vous
êtes
avez-vous des exemples, vous, flagrants,
en comme alerte.
Ça.
Oh bien, écoutez, là, le degré de fausseté peut être plus ou moins élevé, mais on a vu des exemples de ce genre, particulièrement dans un champ que j'ai regardé de très près, dans l'information concernant les guerres yougoslaves, qui ont vu la désintégration de la Yougoslavie. Alors, ça, là, on n'a qu'à se baisser pour trouver les exemples.
Baissons-nous.
Baissons-nous. Vous savez qu'au début, l'opinion qui a été faite sur la crise yougoslave a été faite à partir de d'images et de termes dénonçant des camps de concentration tenus par les Serbes et dans lesquels, ils enfermaient les Croates d'abord, puis les Bosniaques ensuite. Alors il y a eu une image très fameuse. Excusez-moi de parler d'image là plutôt que de mots, mais ça va nous ramener aux mots. Une image très fameuse qui a été rapportée par un journaliste américain dont le nom m'échappe aujourd'hui, que je ne pensais pas que nous parlerions de cet aspect-là de manière précise. Un journaliste américain très célèbre, très connu, qui a eu le prix Pulitzer. Il a rapporté une image où on voyait derrière des fils de fer barbelés trois hommes, dont un torse nu, extrêmement maigre, qui ressemblait un peu de loin aux hommes havres des photos de camps de concentration nazis. Les autres avaient tout à fait bonne mine, par contre, mais ça n'a pas mis en garde. Il s'est avéré quelques mois plus tard, il y a eu des équipes de journalistes qui ont contre-enquêté. Alors, excusez-moi, j'ai oublié. La conclusion qu'on en a immédiatement tirée quand il a diffusé ces images, c'est il y a des camps de concentration, voire des camps d'extermination en Yougoslavie. Quelques mois plus tard, quelques semaines même, des équipes de journalistes allemandes et britanniques sont allés voir ce qu'il en était et se sont aperçus que c'était un montage, que le grand journaliste américain, dont le nom m'échappe car ça contribue à sa gloire, étant revenu bredouille d'une quête d'images à travers la Yougoslavie, pour démontrer que les Serbes avaient des camps de concentration et que c'était l'équivalent des nazis, en désespoir de cause, avait pris cette photo qui était complètement inversée par rapport à la réalité. Ils ont d'abord retrouvé les personnages. Or, ces trois personnages n'étaient pas prisonniers, c'était des réfugiés qui étaient dans une sorte de champ. Et d'autre part, en étudiant l'image et en vérifiant sur les lieux, ils se sont aperçus que ce n'étaient pas les trois hommes qui étaient dans l'enclos, que c'était le journaliste qui était dans l'enclos, et que les trois hommes étaient à l'extérieur. Ça se voyait par les fils barbelés, la disposition des fils barbelés. Et enfin, l'homme maigre n'était pas, en voie d'extermination, il était phtisique. Alors, ils ont évidemment...
Donc, atteint d'une maladie...
Tubercule, un état avancé de tuberculose. Ils ont donc diffusé le compte-rendu de leur enquête, notamment auprès de la BBC, qui avait été la chaîne qui avait beaucoup diffusé la première image avec sa première interprétation. Malheureusement, les choses avaient tellement avancé et cette image avait tellement servi à déterminer la politique européenne et américaine que les gens de radio et de télévision et de presse n'ont rien voulu savoir et qu'on les a empêchés de continuer à donner leur information.
A tout de suite, Maurice Pernier.
L'espace est lancé sur le site de Canal Académie, l'espace Apprendre, un espace d'écoute active pour vous, professeurs et enseignants, élèves et étudiants, avec des suggestions d'activités pédagogiques à partir d'extraits d'émissions. Un espace d'auto-formation à distance, ouvert à tous, téléchargeable facilement et gratuitement, avec l'espace Apprendre de Canal Académie, établi en partenariat avec le Cavilab. Vous allez découvrir le plaisir d'apprendre.
Au fil des pages, avec Maurice Pernier, professeur émérite de linguistique générale à l'Université Paris 12, la désinformation par les mots aux éditions du Rocher, c'est l'objet de cet au fil des pages. On a évoqué bien sûr la définition que vous donnez à la désinformation avec cet exemple qui n'est pas un exemple en mots, si je puis dire, mais en images. Avec cet exemple donc qui nous ramène à la guerre dans les Balkans, une image qui a déclenché cette guerre, qui a influencé l'opinion, les décideurs, et après bien sûr contre-enquêté. Est très difficile. C'est très difficile de contrer une image qui a eu un effet planétaire.
Voilà. Alors, vous savez que derrière cette image sont arrivées toutes sortes de formules verbales, cette fois, qui ont marqué ces guerres yougoslaves et l'intervention internationale. Alors, on n'en finirait pas de les énumérer, n'est-ce pas ? L'épuration ethnique, le multiethnisme, que sais-je, il y a eu tout un vocabulaire sur lequel nous reviendrons peut-être.
Bombardement chirurgical, c'était déjà employé pour la guerre du Golfe.
Oui, ça ne s'est pas instauré là. Peut-être les dommages collatéraux se sont-ils insérés dans cette guerre.
Donc, une pléthore de termes repris servilement ou sciemment par la presse ?
Aussi la question, c'est une autre...
D'où viennent les mots ? Certes, la presse s'en fait le relais, mais d'où viennent-ils ?
Alors là encore, ça nous ramène à la définition de la désinformation. C'est jeté sciemment dans la communication, mais ça ne devient efficace et ça ne devient de la désinformation qu'à partir du moment où c'est repris innocemment, naïvement et massivement par des propagateurs. Pour reprendre là aussi une formule de Volkov, n'est-ce pas ? Volkov insistait sur le fait qu'il y a des informations lorsque les désinformés se font des informateurs. Alors c'est l'histoire de La rumeur d'Orléans, n'est-ce pas ? Ou de l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Ça ne devient rumeur ou ça ne devient vérité admise par le bon sens populaire que dans la mesure où il y a eu des propagateurs innocents qui ont cru vraiment qu'ils propageaient des informations, de vraies informations.
Et là, évidemment, l'origine est à trouver. Alors, dans les médias, ceux qui forgent les mots, ce sont, à votre avis, la plupart du temps, des journalistes, des politiques ?
Ah, moi,
c'est bon ou bien une origine ? Est-ce qu'on se réunit pour dire, voilà, employant tel mot et pas tel autre ?
Je dirais que les journalistes et les gens de médias sont, la plupart du temps, les propagateurs involontaires. Mais que lorsque des mots doivent vraiment répondre à une intention surtout géopolitique, ça se forge dans des cabinets de communication qui ensuite, mine de rien, les balancent, entre guillemets, dans la presse. Et lorsque les journalistes ne sont pas suffisamment attentifs, ils reprennent comme évidence des faits ou des formules qui paraissent être honnêtes.
Pour ce dictionnaire, quels sont les critères qui vous font bondir, qui déclenchent en vous le sursaut quand vous entendez un mot ? Vous dites, à partir de quel moment vous vous dites-vous, ah ben voilà, ce mot-là, il a été forgé par des personnes qui sciemment veulent nous désinformer ?
D'abord, dès qu'il y a un néologisme, je pense qu'il y a lieu de se méfier. Il faut être en garde quand une nouvelle formule apparaît pour désigner des choses qui souvent sont anciennes d'ailleurs. Par exemple, pour prendre un exemple qui est assez loin de nous, j'ai été en alerte quand, concernant les informations sur le Proche-Orient, on a parlé de feuilles de route. Lorsque le président des États-Unis a établi une feuille de route. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dessous, n'est-ce pas ? Ça n'est pas un de mes grands domaines d'intérêt. Mais pourquoi parler de feuille de route alors qu'on avait auparavant des plans de paix ? Et on a eu de multiples plans de paix qui ont tous échoué, la feuille de route aussi d'ailleurs. Mais quand on entend une formule du genre la feuille de route, enfin c'était traduit de l'anglais en l'occurrence.
Roadmap
Je ne sais plus.
Parce que feuille de route a un sens très précis en français. Une feuille de route, c'est un plan que l'on va suivre, c'est la feuille que l'on remet aux militaires la plupart du temps.
Oui, voilà, pour atteindre un certain objectif. Voilà. Je ne me souviens plus de la formule anglaise. Et évidemment, c'était bien cette idée. Cette métaphore avec une opération militaire qui était recherchée, bien sûr, il s'agissait d'atteindre un certain but par un certain nombre de moyens. Mais ça ne diffère évidemment pas d'un plan. Donc voilà, quand on entend une chose comme ça, on se dit, tiens, pourquoi parle-t-on de feuille de route et non pas de plan ?
Mais là, est-ce qu'on a une désinformation manifeste ?
En l'occurrence, je n'ai pas creusé la question. Toujours est-il que la feuille de route n'a pas atteint son objectif. Mais on a semblé adopter une méthode nouvelle pour régler les problèmes du Proche-Orient. On a donné l'impression qu'il allait se passer quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant.
Alors Maurice Pernier, puisque justement on étudie cette désinformation par les mots, on voulait un peu se répartir l'ensemble de ces mots en plusieurs catégories. Et puisqu'on parle du Proche-Orient, qu'on a parlé de la Yougoslavie, du Kosovo en particulier, est-ce que l'on peut continuer sur le chemin, le sentier de la guerre, si je puis dire ? Mm-hmm. Puisque beaucoup de mots ici relèvent de la désinformation.
Mm. Peut-être pourrait-on commencer par le mot « guerre » lui-même.
Le mot « guerre » lui-même, c'est vrai ça ?
Oui. Est-ce que, par exemple, quand on parle de la guerre du Kosovo, est-ce que ça a le même sens que quand on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, ou on pourrait dire presque la même chose pour la guerre d'Irak. Mais que signifie vraiment « guerre » dans une expression comme « guerre du Kosovo » ? En quoi est-ce que ça consistait ? Ça consistait en ce que une coalition occidentale armée essentiellement d'avions et de bombes est allée pilonner un petit pays, la Serbie en l'occurrence, au prétexte de soulager le sort de populations. Autrefois, la guerre était bilatérale. Il y avait des adversaires, des ennemis qui disposaient d'un certain nombre de moyens et qui s'affrontaient sur un terrain. La deuxième guerre d'Irak, c'est un peu la même chose, n'est-ce pas ? Bien qu'il y ait eu guerre terrestre, c'est tout de même une sorte d'opération de police montée avec de très gros moyens pour faire plier un adversaire qui, lui, a beaucoup moins de moyens. Donc déjà, la notion de guerre serait presque à redéfinir dans notre vocabulaire.
La guerre suppose un équilibre entre les protagonistes, entre les acteurs de cette guerre.
Pas nécessairement un équilibre, car il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre et qui emporte la victoire, mais au moins une volonté d'en découdre des deux côtés.
Or, évidemment, ce n'était pas le cas.
Ce n'était pas le cas.
Alors, quel mot aurait-il fallu employer ? Opération de police ?
Ah ben ça, après, ça devient une question de point de vue elle-même, n'est-ce pas ? Selon qu'on estimait d'abord que ces interventions en Serbie, et non pas au Kosovo, car ce n'est pas le Kosovo qui a servi de terrain de la guerre, en Serbie et en Irak, jusqu'à quel point elles étaient légitimes. Si on estimait qu'elles étaient légitimes, on pouvait dire qu'il s'agissait d'opérations militaires diverses, mais certainement pas de guerre.
Oui. Et si on estime qu'elles n'étaient pas légitimes, alors dans ce cas, vous employez un autre terme plus sévère.
Ah, on peut être très sévère et considérer qu'il s'agissait d'agression, qui est le mot qui ouvre mon livre, d'ailleurs.
Et agression, vous le reliez tout de suite ? Tiens, si j'ouvre justement à la page qui nous parle du mot agression.
C'est un pur hasard que ce soit le premier, bien sûr.
Oui, oui, oui.
Mais
vous ouvrez sur l'actualité internationale. En matière internationale, comme en matière privée, l'agression est l'acte belliqueux par excellence. Voilà. Effectivement,
oui,
vous parlez de l'Irak, vous parlez de la Serbie.
Voilà, et le mot agression est un enjeu de la guerre psychologique, disons. En soi, il est intéressant.
Mais l'agression suppose la culpabilité de celui qui agresse.
Oui, donc il faut accuser l'autre d'être un agresseur. Voilà encore un mot qui a beaucoup servi à la désinformation pendant les guerres en Yougoslavie. Je parle de des guerres civiles entre les différentes composantes de la Yougoslavie. On a dit très rapidement, ce sont les Serbes qui sont les agresseurs. Nos intellectuels médiatiques, comme Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy et Glucksmann, n'arrêtaient pas, à longueur de journée, de dire « il faut désigner l'agresseur ». Donc c'était désigner l'agresseur, c'est bien entendu le désigner le coupable. Ça va de soi. Le désigner, c'est le montrer du doigt, et montrer du doigt, comme on sait, c'est déjà un geste hostile. Donc montrer du doigt pour dire, puisqu'il est l'agresseur, il est le méchant. Or, c'était absurde de parler d'agresseur dans le cas de la Yougoslavie, puisque c'était un pays. Il n'y a pas d'agresseur à l'intérieur d'un pays. Dans une guerre civile, il y a des parties en conflit. Mais toute une partie de la stratégie des politiques qui voulaient intervenir en Yougoslavie, stratégie des politiques reprise à leur corps défendant, je crois, par les médias, c'était de dire, il y a un agresseur et un agressé, il faut venir au secours de l'agresseur. Et il fallait
faire... De l'agresser,
à son tour, voilà. Donc on ne se donne le droit d'agresser que si on a en face de soi un agresseur. Donc c'est très important de dire que celui qui est en face agresse ou va agresser.
C'est évidemment l'alibi moral.
C'est l'alibi moral.
D'un alibi moral.
Même chose pour Saddam Hussein, n'est-ce pas ? on n'est pas allé l'attaquer à deux reprises, à tort ou à raison, parce qu'il faisait des vilaines choses chez lui, mais parce que, en se surarmant, nous disait-on, il allait un jour ou l'autre agresser ses voisins, d'abord Israël, puis être dangereux même pour le monde occidental, avec les fameuses armes de destruction massive dont nous parlerons peut-être parce que c'est un syntagme assez intéressant aussi.
On se retrouve dans quelques instants. Je précise que cette émission se déroule en deux parties au fil des pages, que les deux parties seront téléchargeables naturellement dans notre médiathèque. A tout de suite, Maurice Pernier.